Claire Fourcade est médecin en soins palliatifs sur Narbonne, mère de famille, engagée dans sa communauté chrétienne. Je représente sans doute pas le père Pascalide qu'on vous a présenté hier. Et donc, ils vont nous commenter le regard humain, le regard approche humaine. On aura un temps de questions-réponses après.
Ça marche? Ouais. La demande de Vincent, quand il m'a sollicité l'année dernière pour participer. Alors, d'abord, je pense pas que ça va être un enseignement, en tout cas de ma part, plutôt un partage. Et j'espère que le père Yves pourra être lui plus dans la partie enseignement. Mais moi, je me sens pas trop en capacité d'enseigner qui que ce soit ici. Donc voilà, plutôt vous partager. La question était vraiment celle de Vincent sur le regard qu'on porte sur notre pratique, le regard des patients, le regard que nous on porte sur les patients. Et donc depuis qu'il m'a proposé ça, j'ai essayé d'ouvrir mes yeux davantage et de regarder différemment la façon dont je travaillais. Donc je vais juste partager avec vous quelques éléments de ces histoires. Alors il y en a au moins une qui est un petit peu plus ancienne, mais qui m'est revenue avec la demande de Vincent. Donc voilà, c'est vraiment juste un partage. Et puis ce qu'on a proposé avec le père Hyde, c'est que lui, il essaye peut-être de tirer de ces situations, peut-être qui vont vous paraître absolument banales et tout à fait de votre quotidien à vous aussi, d'essayer de voir comment on peut réfléchir à partir de ça, comment peut-être des choses auraient pu se vivre différemment, comment on aurait pu les regarder autrement. Et voilà, donc je n'ai pas trop disons de prétention autre que celle d'amener à réfléchir sur nos pratiques à nous et la façon dont on regarde ceux qui sont autour de nous et dont on apprend, enfin, dont moi aussi j'ai appris à regarder. Parce que je pense que ce qui nous réunit tous ici, c'est l'envie de prendre soin. C'est avec l'idée que ce qu'on fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, hein. Et donc voilà, soigner les corps, soulager les cœurs, je pense que c'est ce qui nous réunit tous. Alors je pense que la plupart d'entre vous, enfin je le souhaite, ont la satisfaction quotidienne des fois de guérir ceux qu'ils prennent en charge. Moi, ça m'est arrivé une fois il n'y a pas très longtemps et je me suis aperçue que ça m'était pas arrivé depuis au moins 20 ans de vraiment guérir quelqu'un. Donc c'est vrai que voilà, ça peut vous paraître peut-être un peu paradoxal cette idée d'entendre quelqu'un qui travaille en soins palliatifs, parce que si on considère les soins palliatifs un peu comme une spécialité qui aurait à prendre en charge la douleur et s'adapter parfois et savoir parler de la mort, ça n'aurait aucun intérêt parce que la plupart d'entre vous probablement un médecin généraliste en moyenne accompagne 3 patients en soins palliatifs chaque année. Donc c'est très peu, donc ça, vous pourriez vous dire que ça ne vous concerne pas du tout. Mais je crois que les soins palliatifs, ils ne sont pas nés de l'idée qu'on ne savait pas quoi faire face à ceux qui meurent, mais plutôt face à une question sur le sens de ce qu'on fait et de ce qu'on veut faire. C'était quand même au départ quand même une révolte et un questionnement et une colère contre une médecine qui morcelle, qui divise, qui considère que le foie, la rate et le poumon, ça n'a rien à voir et qu'on serait que la somme de nos organes. Et que c'était une lutte et une défense contre un système de santé qui parfois serait tenté de réduire le patient aux symptômes, la douleur au protocole et la souffrance à la loi. C'est-à-dire que quelque chose qui serait très réducteur. Et il y a eu là quand même il me semble, à la naissance des soins palliatifs, quantité de gens qui se sont questionnés avec obstination pour réfléchir à comment on peut écouter l'homme souffrant, comment on peut entendre la globalité de sa plainte et pas juste un petit bout, comment on peut répondre sans enfermer et surtout comment on peut apprendre à vivre à l'ombre de la mort. Parce que c'est quand même ça, les soins palliatifs, c'est vivre avec, pour les patients comme pour les soignants, l'ombre de la mort au-dessus. Et comment on vit là-dedans, parce que c'est quand même des lieux de vie, hein, et pas des lieux de mort, ça c'est vraiment super important. Et donc voilà, comment on vit comme ça? Donc ça veut dire qu'évidemment, ce qu'on propose, ce n'est pas un cahier de recettes de bonne mort, c'est d'abord une philosophie du soin et c'est peut-être ça qui peut nous rassembler tous aujourd'hui, c'est comment, avec nos patients, on peut avoir ce regard global sur ce qu'ils vivent. Donc ça veut dire que les soins palliatifs, depuis 30 ans, 40 ans, ils ont vraiment cherché à explorer toutes les pistes pour répondre à ces questions-là. La médecine, la philosophie, la théologie, l'anthropologie, la technique aussi, la science, la technique, parce qu'on en a besoin, hein. aucune piste a été négligée parce qu'il nous semblait que c'était là quand même la dignité. La vraie dignité de l'homme, c'est d'avoir mis tout en œuvre et d'avoir tout cherché sur la façon dont on peut soulager. Donc c'est aussi un mouvement qui fait se croiser des regards, des cultures, des clés de lecture. Alors je sais qu'ici, il y en a qui travaillent en soins palliatifs. Quand on travaille dans des équipes pluridisciplinaires, on expérimente au quotidien ce que c'est de croiser des cultures, des regards et des langages. C'est-à-dire que c'est parfois difficile. Dans notre équipe, il y a une psychanalyste. C'est super intéressant, mais croyez-moi, vraiment, pour trouver un langage commun, ça prend du temps. Ça nous a pris des mois. C'est super, hein, c'est vraiment riche, mais voilà, on a vraiment et le langage d'une assistante sociale est encore différent. Et quand on ajoute à ces équipes directement soignantes, des bénévoles. Alors moi, ça, je l'expérimente au quotidien dans l'équipe où je travaille. Et puis, je suis aussi impliquée à la Société française de soins palliatifs. Où là, si vous voulez, au conseil d'administration, il y a aussi un tiers de bénévoles, un tiers de médecins, un tiers de soignants. Mais là aussi, je peux vous dire qu'au quotidien, le croisement des langages et des expériences, c'est facile à dire, mais pour le vivre vraiment, c'est pas toujours facile.
Pour les personnes qui sont derrière et qui sont debout, sachez qu'il y a des places assises devant. Ah, c'est peut-être une question de langue, peut-être, non ? C'est une question de traduction ? Peut-être, je ne sais pas. Bon, en tout cas, sachez-le.
Ils sont assis sur une table, en fait. Donc voilà, on a essayé de croiser tous ces regards. Et puis surtout, on essaye aussi de se dire que soigner, ce n'est pas seulement l'affaire de la médecine, encore moins celle uniquement des médecins, mais bien celle de tous les soignants et de toute la société. Et ça aussi, c'est un élément qui me paraît super important. Alors, il faut la science. Parce que sans ça, ce serait que des mots. Si on n'est pas capable de soulager déjà au moins en partie physiquement les gens, on peut toujours leur causer, ça n'a aucun effet. Mais ce n'est pas qu'une affaire de science. Il faut la science qui va soulager et qui va apaiser. Mais la science, elle ne sera jamais qu'un moyen. Elle ne sera jamais une fin. Parce que la fin, c'est l'homme vivant qui est aux côtés de l'homme souffrant. Et parce que cet homme souffrant ou mourant, il est bien l'affaire de tous. Et pas seulement l'affaire des gens qui travaillent en soins palliatifs. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je n'ai pas de recette à vous partager, hein, mais c'est parce que dans mon quotidien, moi, je sais faire que ça, c'est d'observer. Ça fait un moment d'observer ce qui se passe et puis de voir toutes ces pépites de vie. Alors, j'ai déjà dit que j'étais orpailleuse parce qu'on ramasse. Et puis, je trouve que ce qui est impressionnant, c'est comme la vie, elle se glisse vraiment dans tous les interstices. Même quand on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a que la mort qui est là, mais il y a toujours de la vie qui jaillit. Et c'est d'essayer de garder cette trace-là. Voilà. Et donc pourquoi le regard plutôt que le toucher ou plutôt que l'écoute, hein, parce que par exemple nous c'est beaucoup d'écoute, mais je trouve que le regard c'est un échange comme le soin. Il y a vraiment quelque chose dans le regard. Quand je regarde un patient, ça me fait quelque chose. Quand un patient me regarde, ça me fait quelque chose aussi. Et moi quand je regarde le patient, ça lui fait quelque chose. Et je trouve que voilà, dans cet aller-retour de l'effet qu'on a les uns sur les autres, il me semble qu'il y a quelque chose de vraiment important d'accepter de regarder, d'accepter d'être regardé. C'est pas facile d'accepter de voir ce qu'on regarde. Des fois, on n'a pas envie du tout. Je vais vous partager au moins une histoire où j'ai eu aucune envie de voir ce que je regardais. Si on regarde juste à sens unique, on est un voyeur. Mais à partir du moment où c'est un échange, ça va devenir une vraie relation de soins, une vraie relation soignante, et je pense pour le patient comme pour nous. Alors bon, j'ai croisé des gens qui m'ont appris à regarder et à voir, donc ça aussi c'est quelque chose que je voudrais partager avec vous. J'ai vu des patients que j'ai pas eu envie de voir, des fois on m'a regardé et j'ai pas aimé ça du tout, la façon dont j'ai été regardée. Et puis d'autres fois j'ai simplement pas su quoi faire de ce que je voyais, j'ai été complètement démunie et je ne pouvais pas faire comme si j'avais rien vu. On devient responsable de ce qu'on a vu, mais ça m'a mis en question et j'ai trouvé ça difficile. Et puis plus souvent, bien sûr, j'en ai été émerveillée, ça m'a fait grandir. Et quand je me dis « et Dieu dans tout ça », je me dis que lui aussi, il m'a regardé, il a penché sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à être là aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous proposer quelques histoires. Et puis le péri, lui, de ces histoires, peut-être, va essayer de vous proposer sur ces histoires un questionnement un petit peu plus large. Et la première histoire que j'ai envie de vous, le premier portrait que j'ai envie de vous partager, c'est le portrait d'un médecin. Parce que quand je regarde en arrière et que je me dis qu'est-ce qui m'a donné envie de voir, et ben tout de suite ce portrait de médecin me revient parce que c'était une figure très forte pour moi que j'ai rencontrée bien avant même de savoir que les soins palliatifs existaient pendant ma formation. Mais quelqu'un qui m'a vraiment une rencontre qui m'a vraiment marquée. Donc, il s'appelait Pedro et Voilà, il avait un physique de taureau, un vrai taureau de combat, un taureau bravo, le taureau de corrida. Là. Il avait du poil dans les oreilles, dans le nez, absolument partout. C'était vraiment quelqu'un d'extrêmement impressionnant déjà physiquement. On avait toujours l'impression que la fumée allait lui sortir des naseaux. Il beuglait dans son bloc, mais il n'y avait vraiment pas d'autre mot. Il avait l'impression qu'il était toujours, et tout le personnel était complètement tétanisé, à la fois de crainte, mais aussi quand même d'une admiration évidente. Il avait des mains comme des battoirs, mais des doigts de fée, ça c'est sûr. Et il était responsable dans le service de chirurgie infantile. Donc je pense que Michel va voir tout de suite de qui je parle, de toute la partie plastique, reconstructrice et esthétique. Et c'était un Espagnol, donc il partageait son pays d'origine avec Picasso. Mais lui, son boulot, c'était de défaire les Picasso que la nature avait fait. Donc il réalignait des yeux, il remettait des mandibules, il redressait des bouches, il suturait des lèvres. Enfin, vraiment... Il redessinait le visage de ses patients d'une façon qui était vraiment incroyable. Patiemment, lentement, il remettait de l'ordre, il remettait du beau. Je trouvais ça, moi, vraiment spectaculaire. Donc, c'était un de mes premiers stages externes. Donc, naturellement, le sort tombant sur le plus jeune, c'est à lui qu'on m'a affecté. Mais Et donc, j'étais absolument tétanisée comme tout le monde. Et dans les premiers jours où j'étais là, on lui a annoncé la naissance d'une petite fille avec un spina bifida gravissime. Et donc voilà, il a dit je la prends ce soir, il me dit tu viens avec moi. Et donc je suis arrivée au bloc un peu plus tôt, je savais rien faire, c'était d'être à peu près la première fois que j'allais dans un bloc. Et là il y avait le chef de clinique et l'infirmière, et il y avait la petite fille qui était là, alors vraiment avec effectivement une malformation, une énorme malformation, très impressionnante, enfin moi j'avais jamais vu, j'étais... Et le chef de clinique il dit on prend un oreiller et on l'étouffe. Et l'infirmière lui dit, ah bah oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et moi, je me dis, enfin, spontanément, je me dis, j'avais 18 ans, 19 ans, je me dis, mais qu'est-ce que tu peux faire, quoi? Tu peux pas leur dire, faites pas ça, tu peux pas leur dire, tu peux pas t'en aller, tu peux pas rien faire. Enfin, moi, j'étais complètement paumée. Et puis, il est arrivé à ce moment-là, il a ouvert la porte comme ça, il dit, on s'y met, plus personne n'a rien dit, enfin, il n'a plus été question de prendre quelque oreiller que ce soit. Et donc il a fait cette première intervention. Donc je ressentais bien les doutes hein, aussi quand même des deux qui étaient là avant et qui se demandaient à quoi ça sert, quel sens ça a. Enfin vraiment c'est donc lui il ouvre le bloc, il fait l'intervention et puis après il me dit maintenant je vais voir le père, ça devait être 9h du soir, viens avec moi. Et donc là on se retrouve, il devait être crevé, enfin c'était une journée de boulot, une intervention quand même difficile. Et le père, il était là, assis dans ce petit bureau, il était tassé sur sa chaise. Et le chirurgien qui était là, il s'est transformé. Et pour moi, c'était vraiment la médecine avec un grand M qui était là à ce moment-là. C'est-à-dire que la voix a complètement changé. Ce type qui gueulait, et il avait une voix complètement douce. Il a pris son temps, il a utilisé des mots super simples. Il a expliqué les choix qui étaient possibles au père. On avait fait l'intervention d'urgence et maintenant, on pouvait réfléchir. On pouvait laisser faire la nature parce qu'il y avait besoin d'un tas de traitements complémentaires et puis ce bébé allait mourir. Mais voilà, on pouvait faire le choix de pas faire de soins lourds. Ou bien on pouvait aussi s'accompagner, démarrer un chemin chirurgical qui serait incertain, qui serait difficile, mais où lui, il disait, je serai là avec vous et on fera ce chemin-là ensemble. Et j'avais été très impressionnée parce qu'il était là, il expliquait, il ne cherchait pas à convaincre. Il donnait les éléments, il jugeait pas, il n'y avait aucun jugement dans sa façon de faire. Et j'avais trouvé ça déjà très impressionnant. Cette façon d'être disponible, donc il laisse des silences, il laisse le temps de pleurer, il a une voix qui rassure, et puis il dit au papa, on se reverra quand votre femme sera en état de se déplacer, on en reparlera avec elle. Et en sortant, il me dit, on doit choisir nos mots avec une prudence extrême, parce que c'est pas nous qui porterons toute notre vie le choix qu'ils vont faire. C'est eux qui vont porter ce choix, c'est eux qui en assumeront les conséquences, quel que soit le choix qu'ils feront. Et voilà, ses parents, ils ont choisi la vie, ils ont choisi ce chemin pour leur petite fille. Et moi, du coup, je pense qu'il y a eu un lien entre cette histoire de départ et puis le choix des soins palliatifs, parce qu'il m'a mis volontairement, je pense que c'était vraiment un choix de sa part, au bord du précipice de la responsabilité médicale. Moi, j'ai l'impression d'y être toujours, avec toujours le vide sous les pieds et des fois vraiment le vertige de la façon dont on parle, des mots qu'on emploie, de l'effet que ça produit sur ceux à qui on parle. Et je trouve que, enfin, pour moi, c'est une question, ça fait longtemps maintenant, plus je vieillis, et plus je crois que plus je vieillis, plus j'ai le vertige de la façon dont on entend tellement aussi de patients qui disent « on m'a dit », et quand on entend ce qu'ils ont entendu, peut-être ça leur a pas été dit comme ça, mais en tout cas, c'est ce qu'eux ont entendu, et c'est tellement rude que je trouve que ce vertige de la puissance des mots, du pouvoir qu'on a sur les gens en face, je voudrais arriver à garder cette impression de vertige. Et puis je trouve qu'il m'a appris à voir aussi, à deviner ou à espérer du beau sur chaque visage, et ça, je trouvais ça super. C'est pour ça que j'aime écrire des portraits. Et je colle cette expérience à une phrase à laquelle souvent je me réfère. Sylvia Nagasinski, la philosophe, elle dit que l'éthique, c'est la retenue de la puissance. Et je trouve que souvent, la médecine, elle ne retient pas sa puissance. Et du coup, ça crée des situations compliquées. Et que parfois, notre travail à nous, c'est de retenir cette puissance qu'on a et dans les choix thérapeutiques et dans les choix de mots qu'on fait avec nos patients.
Merci, Claire. J'ai découvert ce matin, j'ai découvert tous les textes que j'ai lus avec attention, respect. Je ne me sens pas très légitime pour réagir. En tout cas, j'ai conscience que chacun de vous pourriez réagir à votre manière. Donc ce n'est qu'un point de vue, hein, ce que je vais dire, et surtout à boule pour point. Moi qui suis secondaire, hein, en caractérologie, et bien plutôt que les choses réagissent, c'est d'autant plus délicat pour moi. Alors, plusieurs choses qui me sont venues, et bien sûr, je vais réagir aussi comme homme, hein, par rapport à une femme. D'abord, en effet, l'importance de l'exemple. Je suis frappé quand je rencontre des personnes qui ont marqué un jour, j'ai rencontré Paul Ricoeur, par exemple. Hein. Ce qui me frappe chez les grands, mais à mon avis, c'est pour tout le monde, c'est l'importance des exemples. Une figure, un exemple concret, une figure qui nous a marqué, et je pense qu'on a besoin d'exemples, parce qu'on a besoin, la norme c'est général, l'exemple c'est concret, et dans ma tête je me dis, et celui-là comment est-ce qu'il réagirait? Quand on a un exemple, on se dit, mais on voit comment est-ce qu'une personne, on la voit quasiment même sur une situation nouvelle, la voit réagir. Donc moi je me disais, tiens, faire mémoire des exemples qui m'ont marqué, alors ce sera en médecine ou comme prêtre, et remercier pour ces exemples qui m'ont été donnés. Et parfois ça manque justement d'avoir eu une vraie figure exemplaire. Un deuxième point, en vous entendant Claire, quand je voyais la belle écoute de ce taureau de combat, en effet, qui tout à coup devient doux comme un agneau, hein, je me disais, mais on n'a pas été formé, hein. En tout cas en médecine, moi de mon temps, on n'a pas été formé à l'écoute. Alors que notre vie, c'est écouter, on n'a pas aucune formation. Je ne sais pas si dans les autres métiers de soignants, c'est le cas. Moi, je sais qu'une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est lorsque, un jour, j'ai découvert ce qu'on appelle les 5 attitudes de porteur. Quels sont ceux qui savent ce que c'est? Waouh. Bon, ça montre bien que là, il y a vraiment un vide abyssal, hein. Les 5 attitudes de porteur qui sont en effet, qui montrent 4 manières d'écouter, qui sont des manières en fait restreintes d'écouter, et la 5e qui est juste, je vais pas faire un topo ici, mais ça montre bien en tout cas, tu vois Vincent, que là il y aurait vraiment quelque chose à faire, et surtout ce qui serait intéressant, donc je vais pas vous les décrire, j'ai conscience que j'attise votre curiosité, mais que ça crée un vide qui va appeler un plein. Et que de ce point de vue-là, parce que vous le dire comme ça, ça ne servira à rien. Ce qui est intéressant, c'est de partir de nos expériences et de nos limites d'écoute. Moi, j'étais dans une des attitudes faussées pour découvrir tout à coup là où est la véritable étude, la véritable attitude qui permet à l'autre d'être pleinement lui-même. Une autre chose, en vous écoutant, alors bien sûr sur le regard, hein, sur l'importance de ce regard, c'était, je vous disais hier, hein, c'était très étudié la psychologie du regard, et par exemple quand il y a une interaction entre deux personnes, quel est celui qui regarde, quel est celui qui ne regarde pas, hein, et là-dedans il y a des choses très intéressantes, hein. En l'occurrence, quand on regarde quelqu'un de façon insistante, hein, si vous me permettez de commencer à vous regarder, hein, il y a forcément une gêne. On a remarqué, pardon, on a fait une étude, des personnes qui se trouvaient à un feu tricolore et un compère était là et arrêté à l'extérieur, regardait fixement le conducteur qui était arrêté. On a remarqué que les personnes démarraient beaucoup plus vite. Le regard insistant, alors c'est soit un regard amoureux, alors ça c'est merveilleux, mais on n'est quand même pas amoureux de tout le monde, soit c'est au contraire un regard plutôt menaçant. Et de fait, on sait que dans une interaction de regard, celui qui parle regarde moins que celui qui écoute. Et que quand il vous parle, il va éventuellement regarder au début, on sait qu'il va regarder à la fin, puis il va venir dire, ça c'est vraiment important ce que je vous dis. Là, en effet. Mais si tout à coup on a une espèce de regard fixe, on devient gêné. Donc il y a toute une éducation du regard, en effet. Il y a des regards fuyants qui nous dérogent tellement. Je connais un professeur, quand il vous regarde, en fait, il ne vous regarde pas. Quand il enseigne, il y a tout coup les yeux vers le plafond. Et en plus, on ne voit que la sclérotique, en plus en tremblant. Je peux vous dire que c'est un petit côté Frankenstein. Donc ça a vraiment été étudié, cette question de l'interaction du regard. Et je pense qu'en effet, il y a à la fois quelque chose de spontané que nous savons, mais il y a aussi quelque chose que nous pouvons davantage apprendre pour avoir un regard plus ajusté. Alors, une dernière réaction, c'est par rapport à la citation de Sylviane Agacinski. En fait, précisément, c'est pas l'éthique est la retenue de la puissance, et n'est rien d'autre, dit-elle, que la retenue de la puissance. Je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui, il y a tout un courant, je vais marquer le nom, pardon, le courant du care, qui aujourd'hui est très présent, avec les quatre sens du mot care, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, qui bien sûr est le soin. Pour les fans de séries télé comme je suis, la grande série qui parle du care, c'est... Ah, il n'y a pas tellement de fans de séries télé, là. Exactement. Grey's Anatomy. Remarquable, avec 13 scénarios, etc. C'est le care au cœur. Il y a tout un livre qui a été écrit là-dessus, passionnant. Et de fait, non seulement ça prend des cas médicaux, mais le fond, c'est vraiment cette relation de soin de l'autre. Passionnant. Alors, c'est à la fois très intéressant, cette théorie du care, et qu'on a aujourd'hui. Alors, je veux dire un petit mot par rapport à ça. Sylvia Agacinski donc, s'inscrit un peu, c'était fondé notamment par John Tronto et d'autres, donc qui s'oppose aux trois courants fondamentaux en éthique, l'éthique de la vertu, l'éthique de la loi et l'éthique utilitariste. Ce sont les trois grands courants aujourd'hui en éthique. Donc à la première, elle rappelle que la vertu parfois est totalement débordée et ne demeure que la fragilité. À la deuxième, l'éthique de la loi, que la loi dans sa froideur doit être complétée par la chaleur de la relation. Et à la troisième, qu'une vie ne trouve pas son sens dans la seule recherche de la maximisation des gratifications, l'utilité, mais aussi dans la gratuité. Donc elle a raison de s'opposer à ces trois courants pour ces trois raisons. Il n'empêche que cette éthique du care dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui a un peu le vent en poupe, a quand même un certain nombre de limites. À trop mettre l'accent avec Lévinas, parce que Lévinas est un peu le philosophe phare derrière, sur l'altérité, on oublie qu'il y a du même. Et je veux dire par là qu'il y a donc de l'universalité. Il n'y a pas que des singularités, il y a aussi des lois universelles. On y reviendra. Ça me paraît être une des premières limites. Deuxième limite, à trop mettre au cœur, c'est né dans le féminisme, ce courant, au cœur l'affectivité, on oublie aussi l'objectivité de la connaissance, qui justement, là encore, est une ouverture à l'universel. Et troisièmement, à trop valoriser la fragilité et la faiblesse, et on sait qu'elle est bien présente, on oublie aussi que l'homme est un être capable et aussi un être dans son de réalisation. Nous en bénéficions et sont heureuses. Donc voilà, à trop emprunter à la symbolique du féminin, elle évacue le masculin, parfois de façon un peu réactive, avec ce qu'il apporte d'objectivité et distance. Et comme toujours, moi je plaide pour une complémentarité.
C'est ce qu'on essaye de faire ce matin. Ce que je vois d'autrui, c'est d'abord son visage, non pas entre autres choses à voir de lui, mais ce que je vois d'abord. C'est à son visage que s'adresse ma quête, que se fixe mon regard attentif. C'est ce que disait Lévinas. Donc là, on revient vraiment, c'est effectivement souvent lui qui est sollicité et convoqué dans ces situations. Le visage de l'autre fait appel à ma sollicitude, il m'interpelle, il me convoque, il m'oblige, et il me met en demeure de répondre à la question « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Alors au centre, il y avait lui, qui n'avait plus de visage, et qui évoquait ces images de lépreux qu'on voit surgir du fond des âges, boursouflés, déformés, creusés, ulcérés, défigurés. Pas une gueule cassée, pas la guerre, pas l'homme, mais juste la maladie. Un fracas complet. C'est une maladie qui a tous les torts, qui s'accroche au corps, dont la vie n'arrive pas à s'échapper. Et ce patient, il n'était pas seulement une image déjà insoutenable, mais il était d'abord une odeur. C'est une odeur affreuse, dont on n'arrivait absolument pas à venir à bout, une odeur tenace qui débordait dans le couloir, qui jusque dans le service voisin. avec l'impression que la mort, elle est là dans cette plaie et qu'elle tient à nous le faire savoir et qu'elle ne va pas lâcher l'affaire. Et qu'on a beau, nous, utiliser tous nos petits moyens habituels, les huiles essentielles, les antibiotiques, les absorbeurs d'odeur, les pansements, tout ce qu'on a l'habitude d'utiliser, sans arriver à empêcher que ce patient sente la mort et un visage de mort alors qu'il était là. Hein, un homme adorable, gentil, doux, affable, vraiment une infirmière, elle avait dit, dès qu'on s'approche de lui, on oublie. Mais ce qui était difficile, c'était de s'approcher. Et ça, je trouve que pour un soignant, c'est super difficile d'avoir un mouvement de recul chaque fois qu'on s'approche d'un soignant, d'un patient. C'est-à-dire rentrer dans la chambre, c'était déjà difficile. C'est vraiment, je trouve, une épreuve qui nous questionne aussi dans notre position à nous. Et donc ce patient, il n'avait qu'une envie, il voulait rentrer chez lui pour trier des photos. Donc c'était un patient qui vivait seul et dont s'occupait sa nièce. Et sa nièce, on sentait qu'elle était au bout, elle aussi. Enfin, je pense qu'elle découvrait comme un tas de gens qui ignorent complètement ce que la maladie peut faire et ce qu'elle peut produire. Et elle découvrait ça avec effarement et elle se sentait, je pense, tout à fait incapable de rentrer chez lui, même pour une après-midi, pour trier ses photos. On sentait qu'elle était vraiment au bout de ses limites. Et c'était la même chose, je sentais la même chose dans l'équipe qui prenait soin de lui. Une difficulté pour l'équipe d'accepter quand on a choisi d'être soignant, d'avoir ce mouvement de retrait involontaire chaque fois qu'il fallait refaire le pansement, chaque fois qu'il fallait... Et à la fois, il y a quelque chose de révoltant. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ce réel qui devient innommable, sur lequel on n'a plus de mots à mettre, dont on n'arrive plus rien à faire? Et alors, on avait dans le service, à ce moment-là, une interne absolument... on n'a eu que des internes super sympas. Donc, elle était elle était tranquille. Une fille tranquille, voilà. Elle respirait. Je trouve qu'elle apportait aux patients peut-être l'insolence de la jeunesse, mais elle avait décidé qu'elle allait y arriver et qu'il allait rentrer chez lui pour trier ses photos et que pour commencer ça, il fallait déjà qu'il sorte dans le couloir. C'était la première étape. Donc elle décide de l'emmener en promenade. Donc c'était un patient qui de lui-même parlait assez peu et je pense d'abord parce que c'était compliqué pour lui et puis parce que l'image qu'il savait qu'il renvoyait l'avait beaucoup isolé. Et donc elle lui propose de partir se promener, de descendre le truc qu'on appelle le jardin, parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça un jardin, mais bon, enfin. Et donc elle lui met un masque chirurgical dans lequel elle avait mis des huiles essentielles en lui disant que c'est pour protéger sa plaie. Et donc ils partent tous les deux et la nièce qui était là à ce moment-là, elle est complètement... Et du coup elle part avec eux et ils partent tous les trois. Et la Sophie, elle revient, l'interne, et elle me dit, ce qui est génial, c'est que dans le couloir, on a croisé une petite fille et elle ne s'est même pas retournée. Et là, c'était, voilà, ils avaient fait leur tour et ça n'avait même pas suscité de personnes, c'était écarté, personne n'avait détourné les yeux, même cette petite fille qui aurait pu être sans peut-être ce que l'adulte se retiendrait de faire. Et du coup, ce patient a pu rentrer chez lui pour trier ses photos et puis bon, il est décédé après dans le service. Et juste au même moment, peut-être quelques semaines après, au dernier congrès de la SFAP, il y a un médecin qui a partagé une situation incroyable aussi, avec des mots que j'ai trouvé super forts, une situation vraiment difficile, pareil, avec une plaie. Et nous, on avait eu toute une série de patients là, avec des plaies vraiment difficiles. Et donc là, c'était un patient qui avait une plaie avec des vers dedans, enfin vraiment. Et donc, elle décrivait aussi pour les soignants l'horreur d'arriver à être soignant dans ces situations-là. Et du coup, ça m'a fait revenir à ce moment-là plein d'autres situations où on a des lambeaux de visage et où on a l'impression que l'humain disparaît derrière la maladie, que la maladie prend toute la place et que c'est un vrai effort pour nous d'arriver à voir l'humain derrière le malade. C'est vraiment ça qu'on veut faire, hein. On veut voir des malades et pas des maladies, mais des fois c'est vraiment difficile. Je pense que vous l'avez peut-être tous vécu, hein, mais des fois la maladie prend tellement de place que c'est vraiment compliqué de voir l'humain. Et puis je trouve que ça m'a fait écho à d'autres situations où c'est l'inverse. Le corps, il est là, tout bien, il n'y a rien de particulier. Et puis on a l'impression qu'il n'y a plus personne dedans. Il est déshabité. Enfin, et je trouve que comme une enveloppe vide, où on aurait perdu le message qu'il y a dans l'enveloppe et il ne resterait que l'enveloppe. Et là aussi, d'être soignant, d'être dans le lien, on se demande qu'est-ce qu'elle est devenue, la personne qui animait ce corps, où est-ce qu'elle est partie, dans quel ailleurs elle est partie. Et je trouve que quand la maladie, elle prive nos patients soit de leur apparence d'homme, soit de leur conscience d'homme, c'est là où le vrai travail de soignant, il me semble, apparaît. Parce que c'est nous qui sommes là tous les jours pour leur signifier, tous les jours, jour après jour, qu'ils restent pleinement, entièrement membres de la famille humaine. Et c'est la façon de les toucher, le temps qu'on va passer avec eux, l'attention qu'on va accorder à des détails, parfois les plus insignifiants, l'intérêt qu'on va porter à leur histoire, à ce qu'ils étaient, aux liens qui les unissent, aux gens qui sont autour d'eux, qui les remet dans notre communauté humaine. Et le soin nous donne plein d'occasions de faire ça. Simplement, c'est à nous chacun de nous autoriser à être imaginatif, à être créatif, à laisser les équipes avec lesquelles on travaille découvrir. Il y a mille façons de remettre en valeur cette humanité qui nous est commune. Parce qu'il me semble que si je te regarde comme un homme, alors peut-être je te fais homme. C'est la façon dont je te regarde qui va faire que tu vas rester l'homme que tu as été ou rester homme.
Merci. D'un coup, je réagis sur la dernière phrase, en effet. Que je te révèle à toi que tu es homme, parce que bien évidemment, nous ne sommes pas des pygmalions. Hein, ce n'est pas nous qui allons créer, mais qui révèle et donc à lui-même le fait naître son humanité. Hein. C'est ce que raconte Primo Levi, hein, le prix Nobel de chimie, quand il avait rencontré le directeur du camp d'extermination. Il disait, il n'avait même pas de mépris pour moi. Je voyais simplement qu'il ne voyait en moi qu'un sous-homme, un Untermensch, hein, de fait. Merci encore pour ce beau récit. Hein. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans la tête de cet interne. Hein. C'est assez étonnant. Hein. Qu'est-ce qui a pu la motiver, là? Je pense qu'on a tous fait cette expérience. Hein. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis retrouvé à Matoto, le dispensaire de Conakry, en Guinée, où j'étais allé rencontrer des amis médecins. Et je me rappelle encore, je rentre dans une pièce, une odeur épouvantable. Et il y avait une maman et un petit enfant. Apparemment, rien de particulier, sauf que quand j'ai fait le tour du petit enfant, mais il avait très exactement la moitié du visage qui avait totalement disparu, rongé. Totalement insupportable aussi. Donc, et c'est vrai que ces expériences qui tous peuvent nous marquer, là on voit à quel point véritablement, comme dit l'Écriture, hein, avant Lévinas, hein, que le visage est vraiment l'épiphanie du cœur. Que le visage est vraiment ce qui révèle. Alors, plusieurs choses me viennent. Je suis frappé à plusieurs reprises, hein, Claire, vous associez le regard avec l'odorat, et c'est vrai. Hein. Je pensais à la parole de Gilbert Cesbron quand il disait « Dieu n'a pas le nez sensible ». Ou ce que disait ce clochard que j'avais rencontré qui me disait « Ah, je sais bien que je sens pas bon, mais mon chien, lui, ne s'écarte pas de moi ». Tellement vrai, hein, de voir que c'est vrai que l'odorat est des cinq sens celui qui est le plus lié à notre affectivité. Et c'est vrai qu'une odeur insupportable rend l'autre insupportable. Et alors, il y a deux, trois choses qui me sont venues du point de vue de l'attitude. La première, c'est la créativité de cet interne. Et je pense, en effet, on en parlait hier, hein, je pense que la question, en effet, de cette attitude intérieure qui est la nôtre comme médecin chrétien, qui est d'être docile à l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est créatif. On a nos idées. Mais face à ça, en effet, que faire? Nous sommes tellement limités, alors que l'Esprit Saint... Les mystiques musulmans aiment bien dire que ce qui est premier en Dieu, c'est son imagination, la mystique soufie. Et c'est vrai que quand on voit la création, les 1 500 000 espèces connues, mais on pense qu'il y a eu 1 milliard d'espèces vivantes. Vous imaginez ça, vous imaginez la créativité du bon Dieu. Donc quand on demande à l'Esprit Saint, il va susciter des choses tout à fait nouvelles. Une deuxième chose... Là encore, la puissance de l'exemple. Je pense que vous avez tous vu la vidéo où le pape François embrasse cet homme qui a une phacomatose. Vous n'avez pas vu, vous avez ça sur Internet. Ça serait bien de donner le lien. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me dis, mais j'aurais même eu des peurs tout à fait archaïques de contagion, etc. Mais quel exemple! Quel exemple! Et puis on voit surtout qu'il n'y a aucun retrait, il n'y a qu'un mouvement. Et je pense que cet homme-là, il l'a dit lui-même, tellement il a été bouleversé. Donc le baiser aux lépreux qui a tellement marqué, le baiser de Saint-François. Donc c'est vrai qu'avoir des exemples comme ça, qu'est-ce que ça peut aider, hein? Alors bien sûr que nous sommes aussi aidés par le Christ qui a accepté d'être le sans-visage. Le Christ qui est le visage et la voix de Dieu est celui qui nous est apparu, comme dit Isaïe 53, hein, comme celui qui était défiguré, ou bien le psaume. Hein, non pas homme, vers mais non pas homme. Et donc, dans ce sens-là, ces exemples, et puis le Christ, c'est par excellence celui qu'on suit, hein, peuvent nous aider. Un dernier point, je pense à cette personne, et par rapport à cette attitude de recul qui, tellement spontanée de notre côté, est tellement blessant du côté du soigné. Et là, je me rappelle notre bonne vieille vertu morale, qu'on aussi on n'enseigne pas véritablement et qui est tellement essentielle, de courage. Hein, le courage, c'est pas la vertu de celui qui n'a pas peur. Hein, la parole de Bayard, sans peur et sans reproche. Sans reproche, on comprend, mais celui qui est courageux a peur. Mais justement, il ne se laisse pas conduire par sa peur. Il dit « Ok, j'ai peur, je n'ai qu'une seule envie, c'est de fuir. » Mais il y a en moi la ressource qui est le courage. Or, l'acte qui symbolise le courage, c'est un pas en avant. Et j'ai plein d'exemples de films qui me passent par la tête là, où on voit vraiment le courage de celui qui met un pas. Je pense pas, même à Gandalf, quand il va passer dans le Mordor, quand il va affronter le Balrog, il y a ce pas en avant. Non, tu ne passeras pas. Cette parole extraordinaire. Non, tu ne passeras pas. Alors, c'est un côté à la fois viril, hein, vire l'homme, mais partagé par tout le monde. Ou bien je pense à la parole de Jésus. Pas la parole, à ce passage très important en Saint-Luc, Luc chapitre 9, verset 51. C'est le basculement de l'évangile. Jésus qui a fait tout son ministère, qui a miracle, etc. Et qui là va devoir partir pour Jérusalem. Jésus qui est vrai homme, il a la peur au ventre, comme nous aurions peur au ventre. Il sait bien qu'il va mourir. Et bien là, on voit ce passage étonnant où il dit en Saint-Luc, durcissant son visage. C'est une parole utilisée très étonnante. Hein, lui qui va rencontrer le visage, durcissant son visage, il allait de l'avant vers Jérusalem. Et je pense que parfois, on verra d'autres exemples, hein, ce courage nous est nécessaire pour aller. Et à la fois, on peut être dur intérieurement et très doux avec l'autre. Donc cette vertu de courage et d'inventivité et ses exemples.
Alors la situation dont je vais vous parler ensuite, peut-être elle va vous choquer, mais en tout cas, je vous le partage parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Peut-être vous auriez fait différemment, peut-être vous allez me donner plein d'idées de comment ça aurait été possible de faire autrement. C'est une situation où moi j'ai été regardée et où ça m'a mis complètement en difficulté. Et j'ai pas su quoi en faire. Et probablement sous l'effet de la surprise, j'ai eu le sentiment en tout cas de pas être du tout à la hauteur de ce qui aurait été bien, mais je trouve que c'est intéressant. Enfin, voilà, je vous le partage et puis voilà, peut-être ça va vous choquer, puis peut-être du coup ça va être l'occasion de réfléchir a posteriori à comment ça aurait été possible de faire autrement. C'est une histoire qui a 2 ans déjà, mais voilà, donc la loi sur la fin de vie qui à l'époque n'avait pas encore été modifiée, elle nous donne un cadre sur la façon d'accompagner les patients, mais c'est un cadre qui est assez large si vous voulez pour que on puisse construire avec nos patients un accompagnement qui est du sur-mesure. C'est vraiment à ça qu'on est attaché, hein, à faire que du sur-mesure. On ne fait pas de prêt-à-porter, nous on fait que de la haute couture, hein, on est des gens de luxe et donc on fait pour chacun en fonction de ce dont il a besoin. Mais parfois, si vous voulez, ça doit être pareil en haute couture, si vous raccourcissez trop le vêtement, à un moment il ne va plus très bien, quoi. Et parfois on arrive, si vous voulez, au bord de la loi, au bord de ce qui nous paraît éthique. Et là, dans cette situation, je me suis retrouvée vraiment l'impression d'être seule et avec un vertige. Alors là, un vrai vertige. Donc c'était une patiente qu'on avait suivie à la clinique. En hospitalisation, elle était venue 2 ou 3 fois. Donc une patiente qui avait un néo de l'ovaire multimétastasé avec une carcinose péritonéale, des métastases pulmonaires, enfin voilà, qui était vraiment très dégradée, mais qu'on n'avait jamais vue à son domicile. On l'avait toujours vue en hospitalisation. Il n'y avait jamais eu besoin ou elle n'avait jamais souhaité. Enfin, et donc une fois elle est sortie du service, prise en charge par l'HAD, elle rentre à son domicile et elle voulait plus être réhospitalisée. Son état s'aggravait. Donc nous, on participe au staff de l'HAD. Et donc en staff avec l'équipe d'HAD, on évoque la possibilité, en particulier avec des difficultés respiratoires, de mettre en place une sédation si la situation s'aggrave. Enfin voilà, on évoque comme on évoque dans ces situations-là, de ce qui pourrait être possible. L'équipe s'inquiète, et s'il arrive, qu'est-ce qu'on fait? Donc on se dit que voilà, ça peut être une solution. Elle veut rester chez elle, elle habite avec son mari, son fils, et puis la situation devient plus problématique et l'équipe de l'HAD nous sollicite en nous disant maintenant elle réclame une piqûre pour mourir, nous on est démunis, on ne sait pas trop quoi faire, ça serait bien d'aller au domicile. Donc pas de problème, le lendemain on organise une visite à domicile, enfin pour le lendemain, et donc moi je pars avec l'infirmière coordinatrice. À ce moment-là, le médecin coordinateur de l'HAD, qui s'occupe plutôt, lui, des plaies et qui n'a pas du tout d'expérience de soins palliatifs, il n'a pas du tout envie d'avoir de l'expérience là-dedans, il me dit « Oh, je viens avec toi, je veux voir comment tu fais ». Bon, je ne me vois pas trop lui dire ben non, je ne veux pas que tu viennes, mais en même temps, bon, c'est déjà un peu particulier parce que lui, il ne connaissait pas la patiente et nous, on ne la connaissait déjà pas beaucoup. Donc, bon, c'était compliqué. Et donc, je pars avec l'idée, comme on fait dans ces situations, de discuter avec la patiente, avec la famille, de ce qui est possible de mettre en place, de comment on peut le faire, de ce qu'elle souhaite, enfin, d'évaluer. Et puis, on arrive dans un petit village, peut-être à 25 km de Narbonne, et là, devant la porte, il y a le médecin traitant qui me dit ah ben quand même, ce n'est pas trop tôt, cette piqûre, tout le monde l'attend. On me dit, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, on rentre dans la chambre, une chambre toute petite. Il y avait 10 personnes debout autour du lit, toutes comme ça. Toute la famille, elle avait fait venir le banc et l'arrière-banc. Il y avait du matériel médical partout. Il y avait une chaise. Elle était là. Elle était dans le lit, complètement creusée. Elle n'arrivait pas à respirer. Elle avait le regard. Elle me regarde comme ça. Mais vraiment, c'est... Et elle me dit, alors vous me la faites, cette piqûre? Et puis tout le monde me regarde comme ça, pareil, avec le même regard à attendre que... Et moi, j'étais debout au pied du lit, il y avait plein de monde, j'arrivais pas à bouger, elle était loin, enfin vraiment, je déteste ce que je déteste. Moi, d'habituellement, je m'assois, je me mets près de la tête pour discuter de face à face, enfin... Et là, il y avait rien qui allait. Tous ces gens qui étaient là, c'était elle qui avait choisi qu'ils soient là. C'est pas comme quand c'est à la clinique où on peut dire facilement sortez, laissez-nous tout seul. Là, elle était chez elle avec les gens qu'elle avait choisi d'avoir et moi, elle me connaissait pas beaucoup et le médecin qui était à côté de moi, elle le connaissait pas du tout. Enfin, voilà, vraiment détestable. Alors j'essaye d'expliquer, je commence à lui dire on a un médicament, peut-être ça pourrait vous faire dormir. Elle me dit je veux pas dormir, je veux mourir. Bon. Et alors qu'elle était super essoufflée, elle était vraiment mais d'une détermination. Et à ce moment-là, je réalise que dans leur esprit à tous, je suis là pour ça. C'est pas l'équipe mobile de soins palliatifs, c'est l'équipe mobile d'euthanasie quoi, hein, qu'on attend. Et ils attendent que ça de moi. Ils me regardent tous avec des yeux qui en plus, je sais pas, il y avait une ambiance agressive, mais sur le même ton que le médecin qui m'avait accueilli à la porte. Quoi. Vraiment, c'était super difficile. Et je savais pas du tout. Qu'est-ce qui lui avait été dit? Qu'est-ce qui lui avait été expliqué sur qu'est-ce qu'on allait lui faire? Enfin, j'avais aucune idée des mots. Or, je trouve que c'est super important dans ces situations. Quand on parle de sédation avec les patients, enfin, pour nous, en tout cas, ça s'inscrit toujours dans une temporalité. On a commencé d'en parler en amont, on a dit que c'était possible, qu'on n'allait pas les laisser souffrir, qu'il y a des moyens de soulager, que ce n'est pas forcément des moyens qui vont supprimer la conscience, mais qu'en tout cas, on peut soulager, on pourra être là, on ne va pas les laisser seuls. Enfin voilà, ça s'inscrit dans une relation de soins. Et là, ça ne s'inscrivait dans rien du tout. J'étais là comme effecteur du soin, d'un soin que je n'avais pas ni proposé, ni expliqué, ni moi-même. Enfin, alors forcément, vu son état, ça paraissait effectivement nécessaire de faire quelque chose pour qu'elle soit plus confortable, mais voilà, c'était vraiment super difficile. Moi, j'avais envie de parler, mais personne n'avait envie d'écouter. Ça, c'était très clair, c'était absolument plus le sujet. J'étais juste là parce qu'on était trois médecins présents et que j'étais la seule qui savait utiliser le produit que tout le monde voulait qu'on utilise. Et donc, à ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir le cerveau comme de la colle. C'est-à-dire rien qui vient, quoi. J'arrivais pas à penser. Impossible de voir qu'est-ce que je dois faire. Je peux pas m'en aller. Voilà, ouais, c'est bien, le courage, c'est de faire un pas en avant. Là, je pensais que si je faisais un pas en arrière, franchement, enfin, j'aurais pu. Hein, pour moi, ça aurait été plus cool de dire, bon, ben, on s'en va, je sais pas, on va réfléchir, je reviendrai demain, enfin... Mais bon, voilà, je me voyais pas partir. Si je restais, je voyais pas non plus comment je pouvais faire. J'arrivais pas du tout à discerner ce qui était juste à ce moment-là. Qu'est-ce qui serait le moindre mal, le plus petit bien. Enfin, vraiment, mes ambitions étaient très modestes. Mais j'avais l'impression que quoi que je fasse, ça allait pas fonctionner. Et du coup, j'ai quand même insisté pour dire qu'on pouvait l'aider en tout cas à mieux respirer, faire en sorte qu'elle soit plus confortable, pas la laisser souffrir. Mais alors là, c'est parole, parole, parole. Hein. Caramel, bonbon et chocolat, l'impression vraiment qu'on parle, mais que ça dit rien. Quoi. Et donc, enfin voilà, tout ce qu'on attendait, c'était bourreau, fais ton office. C'est pour ça qu'on te paye. Donc, avec l'infirmière, quand même, qui était une fille très douce, même si elle n'avait pas trop d'expérience de ces situations, ça m'a quand même beaucoup aidée qu'elle soit là. Et donc, on a fait une sédation et je me suis dit, à ce moment-là, je fais comme je ferais si c'était dans une autre situation, c'est-à-dire qu'on utilise la sédation, enfin, moi, pas très souvent, mais ça fait partie des... Et quand on fait, on injecte le midazolam, 1,5 mg par 1,5 mg, jusqu'à trouver la plus petite dose efficace qui soulage le symptôme. Et je me dis, cette patiente, elle est inconfortable, c'est manifeste, elle le dit, elle respire pas, elle est pas bien, ben, mon objectif, ça va être au moins que ça se soit mieux. Et puis après, on verra. Et donc, on injecte tout doucement et très vite, en fait, elle s'endort. Et du coup, là, je sens quand même que pour tout le monde, la tension baisse et qu'à ce moment-là, il y a possibilité de remettre de la parole. Parce que du coup, on va sortir de la chambre, tout le monde, une fois qu'elle dort, qu'ils ont vu qu'elle dort. Et puis, je vais pouvoir du coup expliquer ce qui est fait. Et donc après, la patiente, elle est décédée dans le week-end qui a suivi, c'était le vendredi. Elle est décédée le lendemain ou le surlendemain. Mais disons, il y a eu peut-être un effet de la sédation, peut-être pas. Et elle était aussi, c'était aussi une patiente qui était quand même tout à fait au bout de son chemin. Mais voilà, il y a vraiment ces moments où on a le vertige du fait qu'il reste que la conscience et que c'est vraiment pas beaucoup. Enfin, en tout cas pour moi, c'était pas suffisant. Et avec des remerciements tout particuliers pour mes deux confrères qui sont restés là, les mains dans les poches jusqu'au bout, pas un mot de soutien, pas rien, pas un geste, uniquement spectateur d'une situation qui était quand même, je pense qu'ils pouvaient pas sentir à quel point, ne pas sentir à quel point c'était difficile. Voilà, donc juste pour vous dire que parfois on fait du pas si bien, mais qu'on fait du comme on peut.
Merci Claire. Il faudrait laisser un peu retentir cet exemple hein, en chacun de nous. Deux préalables quand je l'ai lu ce matin, en effet. La première, je suis tombé un peu des nues. Moi, j'étais encore avec la potion Saint-Christopher, dont je me disais, en effet, elle est toujours efficace. On peut toujours permettre qu'il n'y ait même quasiment aucune lucarne de souffrance, etc. Donc, là, en effet, j'ai vu que l'idéal des prescriptions n'est pas la réalité vécue. Hein, donc, bon, même quand on connaît bien. La deuxième, ce que je vais dire maintenant, bien sûr, c'est une évaluation générale. Je n'ai aucun droit à visiter les consciences, ni celles de Claire, ni de celles des personnes qui étaient autour. Hein. Moi, je distinguerais deux aspects dans la situation. Un premier aspect qui est la dimension psychologique, hein, qui est bien présente. Quand je lisais, quand j'entendais aussi Claire, je me sentais physiquement coincé, de plus en plus contraint entre pas seulement la détermination de la patiente, mais son autoritarisme de fait. Hein. La pression là aussi du groupe, la lâcheté quand même des autres médecins, et c'est quand même frappant hein, la parole que vous avez utilisée, hein. Mon esprit peine à penser à discerner le juste, or que justement il faut être paisible et avoir, Saint Ignace nous le dit aussi, hein, pour pouvoir poser un véritable discernement, là c'est le contraire même, donc de fait il y a une situation qui empêche, et puis il y avait en moi tout à coup je me disais, waouh, j'aurais réagi comme le taureau de combat. Hein. Sortez tous, hein, comme si Arnaud de Bergerac, vous savez, au moment de quand il rencontre pour la première fois Christian de Neuvillette. Hein. Sortez tous, hein, vraiment, je me suis dit, alors là, non, c'est impossible. Quoi. Je sens que, ouf, il y a quelque chose en moi qui aurait réagi. C'est quoi cette façon de contraindre ma liberté? Parce que quelque part, en effet, vous n'étiez que l'exécuteur des basses œuvres. Hein. Et donc là, bon, cette dimension psychologique, à mon avis, est vraiment importante à prendre en compte. Hein. Tous, il y a des moments où on n'est pas très fiers. Mais quelle était la dimension de liberté, de conscience qu'il y avait chez nous, hein. On sait bien que, vous vous rappelez seulement en morale, hein, quand on parle de péché mortel, dans le péché mortel, il y a trois conditions. Hein. Le premier, bien sûr, c'est la gravité de l'acte. Mais les deux autres conditions, c'est la pleine conscience et l'entière liberté. Et c'est pour ça que l'Église catholique, dans le catéchisme, de façon très précise, parle de péché grave, donc de l'objectivité, à savoir la matière grave, comme tuer quelqu'un, être adultère, blasphémer, etc. Donc ça, c'est vraiment une matière grave. Mais ne parle pas de péché mortel, parce que ça, cela relève de la conscience de chacun et de la liberté de chacun. Et de dimension donc subjective, c'est liberté et conscience. J'espère que je suis clair, hein. Donc, dans ce domaine-là, c'est clair que s'il y a matière grave, il n'y a pas de fait, peut-être, et là, ça relève de chacun, qu'est-ce qu'il en est, et de la conscience, et de la liberté. Alors, je voudrais maintenant en parler d'un point de vue plus éthique, après le point de vue plus psychologique, et la question qu'on se pose, qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a eu ou non un acte euthanasique? Alors, osons poser la question. Alors, Là encore, on est aidé par une autre distinction que nous donne saint Thomas et que le catéchisme de l'Église catholique a reprise intégralement. Un acte s'évalue à partir de trois critères. La fin, l'objet et les circonstances. La fin, c'est l'intention. Très clairement, Claire nous dit bien que l'intention, quand elle a poussé la seringue, était le soulagement des souffrances. Donc à aucun moment, bien évidemment, la volonté était d'abréger la vie. Très clairement. Ça n'a rien d'évident, hein. On peut poser un acte anodin et avoir une intention par derrière qui, elle, n'est pas nette du tout. Donc ça, c'est subjectivement ce qui nous habite, à savoir l'intention qui était en effet de poser un acte véritablement d'aide au patient. Hein. Deuxième point, je le mets juste avant, les circonstances. Les circonstances peuvent être telles qu'elles rendent l'acte très difficile. Les circonstances, c'est tout ce que j'ai analysé avant, à savoir, là, dans ce cas précis, l'extraordinaire contrainte qui était liée à l'étroitesse du lieu, à l'urgence du temps, à ces personnes qui non seulement n'étaient pas passives, elles étaient proactives, mais par la médiation très lâche de l'autre qui posait. Voilà. Et donc là, ces circonstances elles-mêmes qui sont pour une bonne part aveuglantes. Hein. Quant à l'objet lui-même, je serais intéressé à écouter mes collègues éthiciens, hein, je ne suis pas un spécialiste de fin de vie ni de morale. Je me demande si en effet, en vous entendant, je pense que ça relève de ce qu'on appelle le principe de double effet, à savoir qu'un acte est à double effet lorsqu'il a une intention principale qui est telle et un effet collatéral qui peut être nécessairement corrélé, mais qui n'est pas voulu comme tel. Comme par exemple dans un acte de légitime défense, pour défendre quelqu'un. Malheureusement, je dis pas, il y a quelqu'un qui se fait agresser de loin, j'ai un fusil, je vais essayer de viser sa jambe pour l'empêcher de... Mais éventuellement, je peux rater. Et donc là, mon but n'est pas de tuer l'agresseur, mais de protéger la victime. Mais il peut y avoir comme effet collatéral que, malheureusement, l'agresseur lui-même va être atteint. Donc vous voyez bien que, et l'intention, et dans son objet lui-même, l'acte vise quelque chose qui est intrinsèquement bon. Donc la question, en fait, porte là-dessus. Est-ce qu'en effet, dans l'acte qui a été posé, la fin était véritablement ce soulagement, l'effet collatéral étant par exemple l'affaissement progressif, notamment dans les effets cérébraux, hein, du médicament qui est donné, le fait que le malade de plus en plus aura une difficulté à respirer ou sera de moins en moins conscient. Donc là, on peut faire vraiment jouer le principe de double effet. Très bien. Oui, un dernier point. Quand j'entends aussi ce que décrit Claire, je vois à quel point nous avons tous besoin de personnes ressources autour de nous, ne pas rester seul. Pas rester seul pour deux raisons. La première, bien sûr, pour le discernement. Alors, après coup, parce que là, sur le coup, bien sûr, ça paraît difficile, même si on n'a jamais apposé un acte dans l'urgence telle, je pense, hein, j'ai toujours le droit de... Attendez, j'ai le droit, c'est moi qui pose l'acte, j'ai le droit de d'abord de prendre la décision en liberté et d'avoir le temps de. C'est un droit absolument fondamental. Mais aussi une personne ressource pour pouvoir à la fois relire et aussi recevoir la compassion dont on a besoin. Ce qui me permet un clair en l'entendant et aussi en le lisant, c'est que même si vous avez beaucoup de délicatesse dans la description de l'événement, ça se termine par cette petite pointe de colère, voire un peu d'amertume à l'égard de vos deux collègues. Et donc de ce fait-là, ce que je comprends sur le coup, je comprends très bien, hein, mais si on reste avec, si ultimement nous, chrétiens, ne posons pas un acte de pardon, ça va rester comme une trace et ça va nous marquer par rapport aux autres expériences. Et c'est vrai qu'une relecture nous permet après cela, éventuellement en trouvant des excuses à ces deux collègues, mais sans nier non plus leur responsabilité, ça nous permet de pouvoir traverser cela sans rester sur cette impression négative et surtout en pardonnant.
Je ne crois pas leur en vouloir, on ne sait jamais, mais je ne crois pas. Mais c'est ce que je voulais pointer, vraiment, c'était l'idée qu'on avait beau être trois médecins, j'avais quand même l'impression d'être seule. Et alors qu'il me semble que ça aurait été l'occasion de ne pas être seule, justement, à ce moment-là. Et Mais oui, non, je crois pas que je leur en veuille. Celui de l'HAD, on travaille ensemble et c'est un type adorable en plus, vraiment un gentil, quoi. Hein, mais voilà. Ça suffit pas toujours. Et après, je voudrais vous partager une histoire complètement différente, qui est plus le regard que notre médecine porte sur le. Parfois, je trouve qu'à travers les patients, on est amené à porter un regard sur notre société et sur le monde dans lequel on vit. Et là, c'est une situation qu'on a vécue récemment et qui m'a ouvert un champ de questionnement énorme. Alors, en plus, pour moi, ça se colle en plus avec toutes les présidentielles. Là, à un moment, la médecine, c'est aussi un regard sur le monde et c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut lire le monde dans lequel on est. Ça fait pendant plusieurs mois, ça fait à peu près 6 mois, chaque semaine avec une infirmière, on va voir un patient à domicile. Et donc, je travaille à Narbonne, qui est une petite ville de 50 000 habitants. C'est un département pauvre, mais voilà, rien de spécial. Enfin, il n'y a pas de difficulté. Enfin, je veux dire, c'est pas le 9-3, c'est pas Et pourtant, chaque semaine, j'ai l'impression d'aller à l'étranger. L'impression de traverser une frontière, je ne saurais pas dire où on va. Ça ressemble à la fois, aux banlieues des grandes villes des pays de l'Est. En tout cas, je ne saurais pas dire où on va, mais là où on va, il n'y a rien qui est pareil. C'est une cité toute petite. Il doit y avoir peut-être 50 ou 60 logements, donc c'est vraiment pas grand. Et géographiquement, architecturalement, c'est construit en rond. Et on passe sous un immeuble pour rentrer dedans. Donc, je pense que l'idée de départ, c'était de faire quelque chose de convivial. C'était l'idée de départ, mais c'est pas bien arrivé, quoi. Donc c'est un espèce de terrain vague, c'est complètement désolé. Le bitume est tout défoncé, il y a des herbes qui poussent, il y a des balcons qui tiennent tous avec des étés, tout est poussiéreux, il y a des carcasses de bagnoles au milieu. Enfin, vraiment, ça devait être convivial et maintenant ça n'évoque plus qu'une chose, c'est l'enfermement, la ségrégation, c'est-à-dire une fois qu'on est passé dessous, on est ailleurs. Et tous ces étés, je trouve, ils renforcent l'impression que tout va s'effondrer, que ça va s'écrouler, que tout est en train de partir. La cage escalier, elle a été pensée, c'est une cage escalier ouverte. Donc à Narbonne, c'est un pays où il y a du vent. Alors d'accord, c'est pas une région froide, mais en tout cas, c'est toujours désagréable. Il y a les boîtes aux lettres qui sont toutes défoncées. Il n'y a pas d'ascenseur, évidemment. Personne n'a jamais pensé qu'il pouvait y avoir dans ce genre d'endroit des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Hein. Donc nous, notre patient, il est chez lui. Puis une fois qu'il est chez lui, ça fait des mois qu'il n'est pas sorti de chez lui parce qu'il ne peut pas descendre l'escalier. Donc on n'a jamais pensé là qu'il pouvait y avoir des gens vieux, des gens malades, c'est des handicapés, il n'y a évidemment pas d'interphone, pas de digicode, je vous passe tout ça. Ça pue, c'est sûr, c'est sale, c'est moche, ça fait pas envie, il y a des déchets partout. Et on se dit que les gens qui vivent là, ils peuvent pas avoir envie de prendre soin du lieu dans lequel ils vivent. C'est déjà tellement laid qu'on comprend que... Enfin, ça fait comprendre qu'ils jettent par-dessus le balcon et ça tombe en bas, tous les trucs dont ils ont plus besoin, mais quand on vit dans un endroit qui est laid, on n'a pas envie d'en prendre soin. Et on se dit que ça a été négligé, Et c'est à 10 minutes de la médiathèque du centre-ville de Narbonne, 10 minutes à pied, pas en voiture. C'est pas une banlieue... Il n'y a pas de banlieue à Narbonne, quoi. C'est vraiment... Et à chaque visite, mais à chacune de tous les vendredis, je me dis oh que c'est moche ici. C'est vraiment chaque fois ça me fait et l'impression que que la France s'est retirée. Je sais pas où je suis, mais j'ai pas l'impression d'être au même endroit que les gens qui vivent à 300 mètres à vol d'oiseau. Quoi. C'est vraiment étonnant. Donc on rentre toujours c'est la même coursive. La porte est facile à reconnaître. C'est celle qui a été enfoncée par la police. Maintenant ça doit faire 2 mois, qui a jamais été réparée. La famille qui vit là, je pense qu'elle est pareille. Il y a 1000, 10 000, 100 000 sûrement familles en France. Et c'est ça qui fait peur. Donc le monsieur, il est arrivé du Maroc en 1972. Il a fait plein de boulot difficile, mais il a toujours travaillé. Enfin voilà, c'est quelqu'un. Donc là, il a un cancer du poumon qui est en phase avancée. Donc c'est de lui dont on s'occupe. Sa femme, elle a 20 ans de moins, elle a mon âge. Alors je pense que c'est pas neutre pour moi. Elle est arrivée pour être mariée, elle est arrivée du bled pour être mariée avec un cousin qu'elle connaissait pas. Ils ont 5 enfants et je pense qu'elle a pas eu une vie facile. Elle parle assez bien français, mais par contre elle sait ni lire ni écrire. Et ça m'a pris du temps à m'en apercevoir. La première fois que je suis venue, on venait pour le traitement du patient. C'était l'oncologue qui nous avait demandé de venir avec l'accord du médecin traitant. Et il y avait plein de petits sachets. Alors je lui demande qu'est-ce qu'il prend comme traitement. Donc elle me montre ce qu'elle lui donne. Et ça m'a pris toute la consultation de réaliser que comme elle savait pas lire, donc elle mettait l'ordonnance dans le sachet. Alors d'abord, elle savait pas qu'est-ce qui est. Donc à chaque sachet, elle donnait en plus, chaque fois que la pharmacie lui donnait un nouveau sachet de médicaments parce qu'elle avait eu une nouvelle ordonnance, elle donnait les nouveaux médicaments, mais elle arrêtait pas les précédents. Et donc il y avait un mélange de trucs incroyables. Et puis forcément, je vois qu'elle essaye de se repérer, de repérer ce qui est écrit sur l'ordonnance et ce qui est écrit sur la boîte de médicaments. Sauf que comme c'est des génériques, c'est jamais pareil ce qui est écrit. Et donc elle est incapable de se repérer. Et donc le patient, il a un traitement qui est complètement absurde. Mais ça veut dire que le médecin généraliste qui les suivait depuis longtemps, lui, il savait pas qu'elle savait pas lire. En tout cas, il n'avait pas mesuré ce que ça impliquait dans la prise en charge au quotidien de ce patient. Donc ils ont 5 enfants. Qui ont entre 14 et 22 ans, et moi j'ai 5 enfants qui ont entre 14 et 22 ans. Donc on se trouve vraiment, enfin il y a une espèce d'écho, et elle me dit, oh là là, ça fait, je sais pas, 25 ans qu'elle est là, et elle me dit, vous savez docteur, c'est difficile de vivre à l'étranger. Et je me dis, voilà, ses 5 enfants sont nés en France, et elle trouve que c'est difficile de vivre à l'étranger. Elle est toujours à l'étranger. Donc ses enfants, je les ai tous vus à des moments, à un moment ou à un autre. Enfin, il y en a 2 qui ont des petits boulots, plus ou moins. Bon, on sent qu'ils sont quand même inscrits dans quelque chose. Il y en a 2 qui sont complètement perdus, mais vraiment, enfin, 18 et 19. On se dit, mais quel avenir, quoi, hein. On a l'impression qu'en les coupant de leurs racines, les parents leur ont aussi coupé les ailes. Ils sont inscrits dans rien, dans aucun parcours, dans aucun projet, dans aucun rien. Ils sont là, chaque fois que je viens, ils sont couchés sur leur lit. Et puis, il y a un petit de 14 ans. Alors là, chaque fois, je me dis, qu'est-ce qu'il va devenir, ce gamin? Alors lui, il va à l'école. Au moment de la rentrée des classes, la mère, forcément, elle ne peut pas lire les listes de courses pour la rentrée. Le grand classeur petit carreau, grand format, et le classeur 4 anneaux 21-29-7 et celui qui est 28-32. Enfin, vous voyez ça. Voilà, donc elle ne peut pas faire les courses de rentrée. Elle ne peut pas... tous ces petits trucs de la vie quotidienne qui sont super compliqués, c'est des parents qui sont... impliqués pour leurs enfants, hein. C'est pas du tout des parents qui ont laissé tomber leurs enfants, qui s'y sont pas intéressés ou qui ils avaient envie que ça marche, et ils voient les deux que ça a échoué, qu'ils ont raté. Ils étaient venus pour que ce soit mieux pour leurs enfants et ça a raté. Et je trouve qu'ils le constatent tous les deux. Alors je les vois toujours, parce que l'appartement il est sur 2 niveaux et donc je vois toujours d'abord la dame et puis après on monte voir le monsieur. Donc lui il est à l'étage, d'un étage il descend jamais, il sort jamais de sa chambre où il y a un plafond. Et donc je vois toujours les deux d'abord séparément, enfin même toujours séparément parce qu'elle vient pas quand on va voir le monsieur. Donc et les deux ils disent ça et qu'ils ont essayé de les éduquer, c'est vachement important pour eux. Et que regardez Toubib, regardez le résultat, quoi. Et donc pendant qu'on y était, il y a un des fils qui a été pris dans une bagarre, et c'est donc pour ça que la porte a été défoncée par la police. Il a été arrêté, il a été condamné à 18 mois de prison ferme. Donc quand même, pour une bagarre, on peut être condamné tout de suite. Donc il a été incarcéré. Donc un vendredi, je suis venue, la mère, elle était restée jusqu'à minuit au tribunal avec le fils parce qu'elle me dit, vous voyez, tout, eh ben, j'ai tout raté, mais là au moins je dois y être avec lui. Donc elle était restée jusqu'à la condamnation. Puis elle me dit, peut-être que la prison, ça va être bien pour lui, que ça va lui apprendre des choses, peut-être que ça va être l'occasion de se former. Ça me paraissait pas... Et cette famille, elle me file le vertige parce qu'on y voit que la France, elle a investi énormément là. Je veux dire, il y a des éducateurs qui viennent, il y a des gamins qui ont été en foyer, il y a les animateurs sociaux. C'est pas qu'on n'a rien fait, mais c'est cette impression qui file le vertige que tout ce qu'on fait, ça sert à rien et que ça produit rien et que c'est les deux qui ont 18-19 ans. On a l'impression qu'ils sont la proie. Tout trouver de tout ce qui pourra venir, ta vie n'a pas de sens, donne un sens à ta mort, quoi, hein. On a l'impression que si c'est pas la drogue qui passera, c'est le premier fanatique qui passe, il n'y a rien d'autre à leur proposer. Et donc toutes les semaines j'écoute ses parents, le père, la mère. Il y a 3 semaines peut-être, les deux, je pense qu'ils avaient dû en parler parce que les deux l'un après l'autre, les deux m'ont parlé de la Syrie en me disant qu'ils avaient peur. Et bon, voilà, c'est un tout petit exemple. Je suis sûre parmi vous, il y en a plein qui voient des choses à des échelles bien, bien plus importantes. Mais je trouve qu'on est devant un destin qui a l'air de se destiner d'une façon complètement implacable. On est pris là-dedans, parce que moi, j'y viens toutes les semaines. Et toutes les semaines, on apporte des soins. Voilà, il y a plein d'endroits du monde où on meurt et où c'est complètement... voilà, ça ne suscite pas la même attention, ni la même vigilance, ni le même... Et je trouve que ça fait peur. Ça fait peur pour eux, ça fait peur pour nous, ça fait peur pour tout le monde. Et que je ne sais pas comment on peut arriver à garder un regard d'espérance, à se dire n'ayez pas peur. Quand on est comme ça, à la fois dans une position à la fois de témoin, je ne suis pas vraiment un acteur là-dedans. Et en même temps, j'y suis et je ne sais pas quoi en faire. Alors du coup, je passe le micro.
Quand j'ai lu cette histoire, hein, je me suis demandé si j'avais le droit de réagir. Hein. Je vais vous lire ce que j'ai marqué ce matin quand je l'ai lu. J'aime cette histoire qui ne cherche pas à finir bien. J'aime cette histoire qui tricote le personnel et l'intime avec le social, parce que nos actes ont un retentissement. J'aime ce regard complexe qui prend en compte non seulement le patient, mais aussi tout le contexte. Je comprends la réaction de Claire, hein, qui rime avec colère. Mais il y a aussi une autre chose qui n'est pas dite, c'est sa compassion. Elle ne s'est pas laissée piéger par cette situation révoltante, le risque étant soit l'amertume, soit l'impuissance. Ça me fait penser qu'il y a une loi de psychologie sociale là, qui me revenait en écoutant. Hein, c'est qu'on a observé en sociologie que lorsque dans un lieu public, quelque chose est dégradé, si dans la semaine on ne répare pas, le bâtiment sera de plus en plus dégradé, donc de plus en plus enlaidi. Si pitoyable, hein, au sens propre du terme, hein, inspirant la pitié, hein, soit cette situation, justement, je ne crois pas qu'elle soit désespérante. Parce que justement, ce qui est dit dans cette situation, c'est aussi une écoute patiente, hein, et une compréhension. Et moi, je crois qu'elle porte du fruit. Quand vous me dites, pas seulement parce que vous avez repéré par exemple, qu'elle ne lisait pas, etc., ce qui est déjà immense, alors que ce médecin certain temps ne l'a pas vu, mais quand vous écrivez « Aujourd'hui, pour la première fois, tous les deux m'ont parlé de leur crainte de la Syrie », il y a un lien de confiance qui s'est établi. Et donc, dans ce sens-là, il s'est vraiment passé quelque chose, il y a un changement qui s'est opéré. Pas seulement en vous, on découvre tout ça, mais chez eux. Et je repensais à la petite parabole de Pierre Rabhi. Oui, qui c'est Pierre Rabhi, hein, qui, dans son petit livre, la part du colibri, ça, il raconte l'histoire d'un immense incendie. Et alors qu'un incendie s'est déclaré, il y a un petit colibri qui va prendre de l'eau dans son tout petit bec et qui va vers l'incendie. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, t'as vu l'incendie? Le colibri répond, je fais ma part. Hein? Et alors, du point de vue de l'efficacité extérieure, ça paraît pas très grand. Mais je pense qu'à la fois la compassion, la patience, ça par contre, c'est des effets qui sont beaucoup plus grands, sans parler du témoignage qui va demeurer. Et je pense que c'est là. Hein. Le pape Benoît XVI insistait beaucoup là-dessus. Il dit l'important, ce n'est pas qu'on soit majoritaire. Hein. C'est par contre que ce que l'on fasse, on le fasse véritablement avec amour. Et on sait que l'amour ne passera pas.
On arrête.
Voilà, je crois qu'on peut encore une fois remercier nos intervenants. Merci pour la richesse de ces regards humains. On a une demi-heure devant nous pour échanger questions-réponses. Donc, si certains ont des questions, je vous propose toujours de la même manière, vous vous levez, vous vous présentez avec votre prénom et votre exercice éventuellement. Voilà. Et puis moi, je viens vers vous avec le micro.
Bonjour, Chantal Régnier, je suis gériatre à l'hôpital. Je voudrais vous évoquer deux situations, deux notions par rapport au regard. La première étant de citer le professeur Maisondieu qui parle de l'autruicide en évoquant ce que Pascal, tu avais peut-être évoqué à l'introduction, Le fait que nous sommes à la fois exactement, enfin que nous sommes tous différents et uniques et à la fois exactement les mêmes, en humanité. Et le professeur Maisondieu évoque cette capacité que nous avons, médecins, enfin il parlait des gériatres, alors que, mais je crois que c'est un risque pour tous, de cibler le patient comme autre. Et en particulier, nous le girons, nous le pathosifions, nous faisons des échelles d'évaluation. Et cette capacité, du coup, d'en oublier qu'il est le même. Et cette le regarder comme autre et comme autrui peut finir par un autruicide, c'est-à-dire de le supprimer, enfin, de le séquencer, donc de le tuer. Je voudrais évoquer aussi, dans la violence de la situation que vous décriviez, une que j'ai vécue, vécue de violence identique qui m'était adressée par une famille qui était dans le couloir en face de la chambre d'une dame qui mourait effectivement assez paisiblement, une dame consciente qui attendait et parlait très peu. Et en fait, en arrivant près de la chambre, j'ai été prise à partie par il y avait 6 personnes de la famille, de manière très violente, pour exiger que sa vie s'arrête immédiatement, en me faisant comprendre que j'étais pas dupe de leur manière de parler, que je laissais cette femme souffrir. Et à ma question de savoir mais quelle est la souffrance qu'ils évoquaient, de quoi parlaient-ils, ils parlaient du fait qu'elle se voyait mourir. C'est insupportable, elle se voit mourir. Ben, voilà, on parlait du regard. Moi, je me suis sentie agressée dans la personne que j'étais, pas du tout dans le médecin à qui on s'adressait. Je leur ai renvoyé que de là, la médecine n'était pas du tout à sa place pour répondre à une telle question. Bon, je pense que j'ai renvoyé aussi la violence que je recevais. Moi, je travaille en campagne. Il y avait un jeune gars là, qui était là, et je le regarde et je lui dis « Vous êtes chasseur ?» Alors, il me dit « Bah oui. » Alors je dis « Venez avec votre fusil. » Et alors là, il s'est plaqué sur « Venez avec votre fusil. » Il s'est plaqué sur le mur, il a dit « Mais je peux pas. » J'ai dit « Ben, moi non plus. » Bon. Puis je suis rentrée dans la chambre de la dame, j'ai fermé la porte, j'ai respiré. Bon. Voilà, le se voir mourir. Enfin, il la voyait mourir, plus qu'elle en disait quelque chose.
Merci de ce partage. Je pense que ouais, ça évoque toujours plein de situations qu'on a vécues. Enfin, moi, merci beaucoup.
Alors, si je réagis de façon plus générale, je pense à deux choses. Hein. Ces notions d'autrui, c'est ça, c'est autrui ou juste autrui hein. Je pense toujours, moi, j'ai toujours de penser en termes d'intégration et pas de réaction. Hein. Passionnant le concept d'autrui qui permet de nommer le caractère unique, incommutable de l'autre, très bien. Je suis très sensible et c'est un des grands apports de la doctrine de l'Église qui est intéressant de noter, même si c'est l'Église qui les dicte, ce n'est pas au nom de la foi, c'est au nom de la nature humaine, c'est au nom de ce qui est commun à tous les êtres humains. Et donc pour ça qu'elle est vraiment intéressante à entendre. Et moi je me dis toujours, la part d'autrui c'est la part de l'unicité, mais la part du même c'est la part de quelque chose qu'on a oublié qui est la nature humaine. Nous avons tous en commun dans cette salle d'être des êtres humains. Et c'est en ce nom-là qu'on peut dire « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas », etc. Donc il n'y a pas que cette unicité inénarrable, ineffable, indicible, sur laquelle on n'a rien à dire. Non, il y a vraiment des paroles. Le deuxième point, je suis frappé dans les situations que décrit Claire, dans celles que tu décris, Chantal. Combien on nous fait rentrer, on est toujours libre, hein, mais on nous fait plus ou moins rentrer dans le triangle de Karpman, le fameux triangle dramatique de Karpman. C'est vraiment quelque chose à travailler de près, hein, avec le bourreau, la victime, le sauveteur. Donc, elles vont se victimiser, c'est-à-dire pas seulement être victimes, mais véritablement les personnes qui ne veulent qu'être victimes, pour vous obliger vous-même à choisir le sauveteur, et si ce n'est pas le cas, on va faire de vous un bourreau. Donc, bien connaître ce mécanisme qui est totalement universel peut être très précieux pour justement ne pas rentrer dans la violence, soi-même, parce que là on devient bourreau par rapport au bourreau, donc ne pas se faire avoir. En sachant une chose, c'est que par rapport au triangle de Karpman, qui est vraiment quelque chose à travailler de près, Tout le monde le pratique. Moi, je dis souvent, il n'y a pas ceux qui le pratiquent, pas ceux qui le pratiquent. Il y a les joueurs professionnels et les joueurs amateurs. Encore, ça vaudrait la peine, Vincent, il y a vraiment à la faire. Il y a tout un enseignement à faire là-dessus.
Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis généraliste à Clermont-Léraud. Dans votre témoignage, enfin, par rapport à la dernière histoire, je perçois un peu un sentiment d'impuissance face à ses parents, qui semblent désespérés face à l'avenir des deux du milieu. J'imagine qu'ils sont de religion musulmane. Et moi aussi, parfois, j'ai l'occasion d'avoir des patients musulmans. Et face à des situations où on se sent impuissant et qu'on n'a rien à proposer, parce que humainement, il n'y a pas de solution, parfois, ça m'arrive de leur dire « Mais tournez-vous vers Mariam. » Parce que dans le Coran, ils ont Marie. Ils ne peuvent pas prier Jésus parce que, pour eux, ce n'est pas un sauveur. C'est uniquement un prophète. Mais Marie, ils peuvent se tourner vers elle. Voilà.
François, psychiatre. Donc, ça me fait penser ce que vous disiez. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de silence aussi dans votre présence. Ça me fait penser à un cas que j'ai eu. C'est une mère qui est venue me voir une fois. Elle me dit, voilà. Mon fils s'est pendu ce week-end. Sa copine est sortie l'après-midi avec un autre et il n'a pas pu la voir au téléphone, elle ne l'a pas rappelé. Et donc il a essayé de téléphoner à mon deuxième fils et puis après il s'est pendu. Alors, moi, j'avais cette femme en face et puis j'apprécie sa douleur et puis je crois. Hein, et je regarde au loin, en fait, je regarde, j'avais une photo avec l'océan Atlantique et puis le ciel au fond. Et donc, elle se retourne, un peu étonnée que mon regard, vous voyez, je regarde justement, que mon regard regardait au-delà. Hein, donc, elle se retourne et puis silence et elle me dit « Merci, docteur ». Moi, je n'avais rien dit. Et alors, au cours des entretiens, elle a vu que j'étais chrétien quand même. Et donc ça, un peu avant un an, elle me dit « Écoutez, docteur, je voudrais une messe, mais pas au village parce qu'ils vont tous revenir. Et alors, je ne vais pas supporter, il y aura tous les copains et puis il y aura tous les gens du village. Alors, ils vont refaire comme il y a un an, alors je ne viens pas. » Vous pouvez faire quelque chose. Effectivement, il y avait un médecin qui était là, un prêtre. J'ai pensé à un prêtre qui était là un peu en remplacement pour un an au puits. Et j'ai dit, écoutez, je crois que le jour anniversaire, il y a la messe à la cathédrale du puits avec un médecin qui vous accueillera avant pour en parler. Mais vous pouvez très bien venir. Deuxième lapsus. Je ne sais pas si c'est moi qui associe. J'en sans doute que j'associe les deux. Et alors, le jour anniversaire, j'ai vu qu'elle était là devant, à gauche, devant, sur les bancs de gauche, et avec son mari, l'autre fils, était là aussi. Et puis la famille, une partie de la famille, les grands-parents. Etc. Et alors, au cours de la messe, ce jour-là, moi j'en savais rien, mais à gauche, il y avait tout un chœur d'enfants. Donc ces gens-là, ils étaient entourés par ces enfants, qui étaient le chœur d'enfants, donc, qui chantaient très très bien, et qui étaient habillés d'ailleurs en doré, enfin, complètement entourés, cette famille. Vraiment avec eux, autour d'eux, comme ça. Ça s'était trouvé comme ça. Et alors, je vais les saluer à la fin de la messe. Ils n'ont rien dit, mais ce regard de consolation qu'ils avaient l'air d'avoir, incroyable. Voilà, témoignage.
Alors, on va essayer de garder le format question pour que éventuellement le plus de personnes puissent en poser, et donc des questions courtes.
Oui, Corentin Gamboni, interne en psychiatrie sur Toulouse. Donc vous avez évoqué brillamment cette dimension de pluridisciplinarité qui est à la fois complexe et nécessaire. Je voulais savoir un petit peu comment pouvait s'inscrire le prêtre dans cette pluridisciplinarité, dans la dimension du sacrement des malades, et est-ce, par rapport à votre expérience, est-ce que fréquemment on fait appel aux prêtres dans ces situations-là, et comment il peut s'inscrire dans ce dispositif pour que le patient puisse en bénéficier?
Alors, je vais vous dire comment ça fonctionne chez nous, et après, voilà, chaque équipe, c'est différent. Mais donc, chez nous, depuis une dizaine d'années, il y a des moines qui viennent deux fois par semaine dans le service. Donc, je précise que je travaille la question m'a été posée hier, dans un établissement privé à but lucratif, absolument non confessionnel, hein, qui fait partie d'un groupe. Donc, c'est pas lié à l'ADN de l'établissement. Donc il y a des moines d'une abbaye qui est à une trentaine de kilomètres de Narbonne qui viennent, donc ils sont des jeunes qui viennent deux fois par semaine à jour fixe, le mardi et le vendredi. J'insiste là-dessus parce que ça me paraît un élément important. Et donc ils font partie, si vous voulez, comme si l'équipe elle était un peu constituée en cercle concentrique. Donc ils font partie de l'équipe. Il y a un travail de réflexion qui se fait avec eux sur la façon dont on souhaite prendre soin, la façon dont on accompagne, la façon, ils sont partie prenante là-dedans. Ils viennent avec nous au congrès, ils viennent avec nous quand on va visiter d'autres lieux de soins palliatifs. Enfin, vraiment, ils font partie de l'équipe. Et ce que je trouve super intéressant, l'Aude, c'est un des départements les plus déchristianisés de France. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans le service, on a 12 patients et que chaque semaine, ils envoient, je dirais, à peu près 8. Donc évidemment que ce n'est pas 8 catholiques pratiquants munis de tous les sacrements, mais ça veut dire qu'ils proposent, c'est vraiment pour moi, ça s'intègre vraiment dans cette idée de pluridisciplinarité, une écoute spirituelle qui est une écoute qui est d'un autre registre que celle que peuvent proposer des soignants. Et on voit, enfin ce qu'on constate, c'est que pour les patients, c'est vraiment un besoin, parce qu'ils voient les patients musulmans, ils voient des patients qui n'ont rien à... Alors il y a les patients qui sont contents simplement d'avoir de la visite, ils sont jeunes, ils sont sympas, ils rigolent, donc forcément c'est un élément attractif. Hein, j'ai dit hier à l'atelier, mais je n'ai pas honte de le dire, avant on avait une aumônerie qui était pour moi un reniement de Saint-Pierre permanent, je ne connais pas ces gens-là. C'est tellement ils étaient d'une tristesse infinie. Franchement, je trouvais ça désespérant de me dire que c'était sous ce visage-là que l'Église apparaissait aux patients. Et forcément, quand on change le visage, ça change beaucoup le lien aussi. Hein, et du coup, on sent cette soif des patients d'être entendus sur un plan tout à fait différent. Nous, quoi qu'on fasse, même si on essaye d'être pluridisciplinaire, de croiser nos regards, tout ça, on est quand même tous dans des regards soignants. C'est-à-dire que dès qu'on entend quelque chose, toc, 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 il se déroule. On est conditionné comme ça. Et là, on sent... Et c'est des jeunes moines, ceux qui viennent sont souvent ils sont en période de formation pour eux, donc c'est des diacres en général qui viennent. Ils n'ont pas du tout de formation, eux, par contre, du côté du soin. Alors ils participent aux formations qu'on donne, ils viennent toujours pour se former, mais ils n'ont pas de formation de soignants, ils sont complètement vierges de tout ça, et c'est super intéressant, je trouve, l'attente. Et donc le sacrement des malades est proposé chaque fois qu'il y a une demande des familles, ou parfois ils l'évoquent eux avec les patients. Je pense que ça reste relativement assez peu fréquent en comparaison du nombre de patients avec lesquels ils ont des échanges suivis une fois ou deux fois par semaine, en sachant qu'on fait très attention, ils ne vont jamais, ils passent pas systématiquement dans les chambres. C'est les soignants qui, les jours où ils viennent, proposent aux patients en leur disant c'est le jour où il y a les frères qui viennent. Donc ça, pour nous, c'était très important, parce qu'en soins palliatifs, quand on m'envoie le curé, ça sent le sapin. Donc c'était vraiment important pour les patients de savoir qu'il ne vient pas spécialement pour moi et que je dois m'en... Mais que c'est parce que c'est le jour où ils viennent, et donc elle leur propose le matin, c'est le jour où ils viennent, est-ce que vous avez envie de les voir? Alors, des fois, ça va être oui, des fois, ils ont de la visite, des fois, ils sont fatigués, et ça va s'adapter. et puis il y en a qui disent non, je ne veux jamais les voir. Donc sur le panneau de planification des soins, quand les patients ne veulent pas, pour ne pas leur reposer la question deux fois par semaine du genre vous avez dit non, mais est-ce que vous êtes bien sûr que c'est non, on met un petit machin où il y a écrit pas de frères, donc les frères ils savent que là, et les soignants savent aussi que c'est pas la peine de reproposer deux fois par semaine. C'est voilà, et puis ça se construit, mais je trouve que c'est vraiment extrêmement riche, et je trouve vraiment beau de voir comme ce besoin d'écoute, il est présent bien au-delà de l'étiquette.
Non, je rajoute juste que nous avons quelqu'un qui connaît bien, hein, le père François, donc qui interviendra cet après-midi. Si éventuellement Vincent voulait mettre en contact avec lui, hein, donnera des informations complémentaires.
Hein. Étienne, citoyen, je dis citoyen parce que vous êtes intervenu il y a deux jours sur la 2 en direct avec David Poujadas et face à Benoît Hamon. Comment avez-vous fait ce parcours ? Parce qu'on dit que c'est pas facile de percer dans les médias, mais de rejoindre justement et d'avoir cette parole directe face à un homme politique et de parler d'euthanasie. Et je vous remercie parce que c'était un très beau témoignage.
Je vous remercie, c'était une épreuve terrible. Ça m'a, heureusement que j'avais réfléchi à ce que j'allais faire ici avant qu'on me sollicite, parce que jamais après ça m'a stérilisé la pensée pour toute la semaine. Je ne sais pas du tout, je pense que la journaliste a cherché, je pense que c'est lié à mon bouquin, elle a cherché sur internet, elle n'avait pas d'idée, c'est pas passé par aucune, je travaille à la SFAP, mais c'est pas passé par la SFAP, enfin, elle a cherché sur internet, je pense, médecin soins palliatifs, et puis c'est sorti, enfin, je pense que c'était quand même un peu le hasard, parce qu'elle a appelé au boulot, donc il n'y avait aucune raison. Et j'ai vraiment hésité, j'avais vraiment pas envie, c'est ma collègue qu'elle a eu et je me suis dit je vais faire semblant que j'ai pas eu le message. Puis après elle m'a envoyé un mail et puis mon mari m'a dit, là c'était vraiment ça, c'était vraiment le pas en avant. Il m'a dit t'as pas le choix, tu dois y aller. En plus j'étais à Paris ce jour-là, enfin j'avais aucune raison de dire non quoi, j'avais aucune raison valable, mais franchement c'était affreux et je pense que je remercie tous ceux ici qui m'ont porté parce que voilà, je pense que c'était bien au-delà de moi et que ça me paraissait important, disons, dans ce temps très petit, d'arriver à dire quelque chose à la fois des soins palliatifs, des patients qu'on accompagne, et bon ça va pas faire changer les choses, hein, mais voilà, d'essayer de toucher au-delà de l'homme politique aussi les gens qui écoutent dans une démarche d'accompagnement. Donc, merci. Alors voilà, ce qui était intéressant, je partageais avec le père tout à l'heure à table, c'est c'était l'après aussi, parce qu'il y avait donc toute une brochette derrière lui de députés, anciens ministres ou ministres, enfin, qui étaient présents et qui après sont tous venus me raconter la mort de leur grand-père, celle de leur papa, celle de leur maman. Marie-Lise Lebranchu, enfin, je pense que c'est pas un secret, enfin, qui m'a dit, moi je suis militante de la DMD depuis longtemps, qui m'a raconté les larmes aux yeux, le suicide de la mère de Lionel Jospin, que c'était très difficile, enfin vraiment c'était complètement surprenant, disons, l'idée qu'il n'y avait aucun lien entre ce qu'ils vivaient dans leur vie et puis des convictions qui pour eux ont l'air de faire partie du costume qu'il faut avoir quand on est socialiste, il faut penser ça, mais il n'y avait aucun lien entre les deux. Et il m'a semblé que quand même, dans le contact personnel, il y avait quelque chose qui pouvait être touché, parce que ce n'était pas du tout en fait des positions idéologiques. Je m'attendais à être très agressée, en fait, je pensais que ça allait être très dur et que moi j'allais être incapable de réagir. En plus, j'aime pas trop l'agressivité, les conflits, c'est pour ça que je ne sais pas dire sortez d'un ton. Donc des fois ça serait bien, mais je savais que là j'allais me faire piétiner si j'allais sur ce terrain-là, et en fait pas du tout, c'est pas du tout aussi idéologique qu'on croit, c'est pas du tout aussi, enfin c'est juste que d'abord ils connaissent rien et puis qu'ils ont jamais fait le lien entre ce qu'ils ont vécu avec leur grand-père et le grand-père de tout le monde quoi.
J'avais une question qui se rapporte davantage à l'enseignement qu'on a reçu hier, et notamment sur le regard que l'homme peut porter sur une femme. Ça nous a valu de visionner un James Bond à Paray le Monial, je vous en remercie père. Et effectivement, c'est un peu singulièrement à cette scène que je fais référence. Il se trouve que je suis chirurgien, que je fais de la chirurgie bariatrique, une chirurgie qui est justifiée par le fait que le surpoids amène des pathologies, et voilà. Donc cette chirurgie permet quand même à un nombre de femmes, puisqu'on a quand même 3 femmes sur 4 qui sont opérées, de perdre 30, 40 kilos, enfin, voilà, et de retrouver une silhouette tout à fait agréable. Et fatalement, et forcément, le regard des autres que l'on porte sur ces femmes change du tout au tout en quelques mois. Donc je retrouve des femmes qui sont 6 mois ou 1 an après l'intervention et qui ont perdu 40 kilos. C'est le rêve de leur vie. Ça fait des années qu'elles y pensent, etc. J'arrive à les revoir après, ce qui est déjà une performance. Et toujours, alors je dis, et le regard des autres, parce que évidemment, l'obsession, c'est la balance. Elle se pèse en perma. Enfin, il y en a beaucoup qui ont l'obsession de la balance. Et donc, du coup, je détourne l'attention, le focus, en leur disant, mais le regard des autres, le regard des hommes a changé sur vous. Ah oui, docteur, ça, évidemment, c'est quand même agréable. Ah oui, donc, fait. Et donc, par ce biais-là, par ce critère, j'arrive à leur faire percevoir que oui, elles ont finalement atteint ce qu'elles cherchaient. Mais l'insatisfaction féminine par nature, sans doute, étant là, et liée à la pathologie, bien sûr, est toujours là. J'ai quelques remarques de femmes, de jeunes filles en particulier, qui m'a dit, je ne supporte plus ce regard des hommes, je ne l'avais pas avant, et en effet, ce que vous disiez sur je deviens un objet, manifestement, ça leur pose un problème. Globalement, alors pour le coup, la question du regard est extrêmement prégnante dans cette situation. Ça permet à nombre d'opérer, de retrouver une vie sociale beaucoup plus dense, professionnelle déjà, parce que quelqu'un qui est en surpoids a beaucoup plus de mal à trouver un emploi. Ma question, c'est... Dans une société où l'apparence a pris une importance absolument colossale, le retour de ces fans, c'est de me dire, d'être vu comme un objet, c'est déjà pas si mal. Enfin, je suis désolé, ça permet d'être réintégré dans la société. Malgré tout, qu'est-ce qu'on peut apporter? Enfin, ou comment l'équilibrer, comment le placer à la juste place?
Oui, et ça me fait réfléchir. Je vais réfléchir en parlant hein, à cette vaste question. Plusieurs choses, en effet. La première, d'abord, on a des études là-dessus montrant que la femme surévalue considérablement l'attente de l'homme. Et souvent, elle se trompe, notamment par rapport à ses souhaits, à ses silhouettes qui sont limite anorexie. Ça ne correspond pas forcément. Et déjà, prendre conscience de cela est précieux. De voir que ce qu'elle... Bon, ça c'est un premier point. Un deuxième point, je pense que de ce point de vue-là, alors il y a notre regard masculin, mais du côté de la femme aussi, il y a une façon de regarder les silhouettes d'autres femmes considérées comme une top modèle, par exemple. Hein. Les top modèles, il y en a à peu près 10 ou 15 dans le monde qui correspondent absolument à ce critère, et quand on voit les vies qu'elles ont. Et donc là-dessus, le recul à avoir par rapport à ça, je dirais une espèce de chasteté du regard. Une chose me frappe, dans la rue, les hommes regardent les femmes, elles regardent. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Hein. Et moi, je suis frappé quand je regarde les femmes, regardant les autres femmes, le body scanner. Chuit, whoop. Et ce qui se passe dans leur tête, même le visage est tellement expressif, on voit tout à coup, hein, quand on passe sur les zones plus sensibles, hein, parce que bien sûr, on se compare. Hein. Donc je pense que là, il y a tout en effet une éducation du regard du côté de la femme. Et c'est pas compliqué. Vous commencez à regarder peut-être en vous réjouissant, et vous finissez en étant triste. On sait bien que l'effet de la comparaison, de la jalousie, c'est la tristesse. Et ça, c'est extrêmement parlant. C'est comme nous les hommes, nous aussi, on a nos zones de comparaison. Vous savez, prenez deux hommes, je ne sais pas moi, à 50 ans, montrez-lui le CV de quelqu'un qui a le même âge que lui, éventuellement le même cursus, et à quel niveau il est arrivé. Et vous verrez dans quel état intérieur il est. Hein. C'est nous dire que la comparaison est véritablement source de tristesse. Saint Thomas d'Aquin disait que la jalousie, c'est une tristesse spirituelle. Hein. Donc ça, c'est un deuxième point très précieux. Un troisième point, quand ce regard sur l'autre corps, hein, le corps de par exemple d'une femme en effet sur l'autre femme, est à ce point douloureux, difficile, il se cache toujours derrière, je dis bien il se cache parce que c'est pas nommé, des blessures plus profondes. Donc simple, en l'occurrence, la question en effet de ce besoin dont on sait très bien en chirurgie esthétique, il est compulsif. Parce qu'on commence par une, mais après ça, on ne s'arrête plus, parce qu'on sait que c'est possible. Ça, on a aussi des études qui le montrent. Ce n'est en fait que prothétique. ça cache quelque chose de plus profond et qui touche l'estime de soi. Et là, je pense qu'une véritable thérapie, thérapie brève dont on parlait, peut permettre de voir que quel regard la personne a-t-elle reçu, et surtout traiter ce qui est en nous blessé. Et là, arrêter de faire de ces moyens qui ne sont que des palliatifs, mais pas dans le sens qu'on a défini tout à l'heure, arrêter de faire ces moyens des véritables remèdes, ce ne sont pas des véritables remèdes. Et là, on peut sortir, parce qu'il faut vraiment en sortir, de ce regard de femme-objet. Moi, je pense à la confidence de cette femme très belle. Elle disait, mais moi, j'ai bien vu que j'ai joué de la séduction pour réussir dans mes études. Et je vois combien j'en suis maintenant dépendante. Hein. Elle avait bien conscience qu'au fond, elle ne faisait que quitter l'amour. Et même, elle concédait notamment à l'homme plus que ce qu'elle aurait voulu profondément. Donc je ne pense pas qu'on puisse, qu'on a à sacrifier aux mains de nos sociétés instrumentalisantes.
Beaucoup de mannequins sont XY. Il faut savoir.
En tout cas, un certain nombre de mannequins sont XY, je dirais, oui.
On va devoir s'arrêter là pour rester dans le timing de notre journée. Étienne, quelques petites annonces. La messe à la Colombière tout à l'heure sera à 11h30. Voilà, donc vous avez